l'Orne. Une pure idée de la Normandie. Alençon et la dentelle forment le couple parfait. Considérée depuis des siècles comme la plus élégante, la plus fine, la plus compliquée à réaliser de toutes les dentelles existantes dans ce monde, la dentelle d'Alençon méritait un musée afin de préserver et de faire découvrir ce savoir-faire vieux de plus de 4 siècles. Johanna Beauboussin veille aux destinées de ce lieu unique, aménagé dans l'ancien collège des Jésuites d'Alençon. Bonjour Johanna Beauboussin.
Bonjour.
J'ai envie de commencer par cette œuvre. Quand on arrive dans un musée de la dentelle, on ne s'attend absolument pas à voir ce genre de dentelle, puisque c'en est une.
Il s'agit plus exactement d'une sculpture dentelle. C'est une pièce qui est réalisée par une artiste qui habite dans le nord de l'Orne, qui s'appelle Marjolaine Salvador Morel. Elle détient le savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon et elle a choisi d'emmener ce savoir-faire ailleurs que dans ses déclinaisons traditionnelles d'accessoires du vêtement. Et pour cela, elle a travaillé le fil de nylon et ça lui a permis de décliner le point d'Alençon en 3 dimensions. La sculpture que nous regardons s'appelle « Éclosion ». Vous voyez que c'est une fleur en dentelle qui est fixée sur un coffret métallique, comme un livre. Et ce livre peut se fermer et la dentelle éclot, la fleur éclot. C'est un petit peu l'adaptation des principes de livres pop-up.
Alors, c'est le témoignage de la modernité, j'allais dire, de ce qu'on peut trouver ici.
Alors, effectivement, la grande chance, c'est que le savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon est toujours conservé, transmis au sein de l'Atelier national du point d'Alençon, qui compte 9 dentelières. Aujourd'hui, c'est 9 dentelières seulement au monde à connaître et à pratiquer au quotidien cette technique qui, elle, remonte à peu près 4 siècles. Et ce qui est très spécifique à notre région, c'est que ce savoir-faire s'est transmis sans rupture pendant 4 siècles. Il y a toujours eu des moments de tension et à ce moment-là, des acteurs capables de se mobiliser, conscients de l'excellence et de la rareté, de la préciosité des gestes qui étaient à l'œuvre, pour les conserver, mettre en œuvre les conditions de la conservation.
Savoir-faire qui a été inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, c'était il y a une quinzaine d'années maintenant.
C'était en 2010, absolument. Et ça permet de fédérer une communauté de sympathisants autour de la communauté des techniciennes. Donc ça ne peut que donner en fait plus de force et plus de chance à ce savoir-faire de se poursuivre encore de nombreuses décennies, siècles, pourquoi pas.
Et ces 9 dentelières, il y a des apprentis, il y a déjà des personnes qui s'intéressent pour prendre la suite.
Oui, il y a eu un renouvellement des effectifs en fait qui s'est opéré il y a quelques années, puisqu'on avait certaines collègues qui étaient proches de la retraite. Des apprentis sont rentrés à l'atelier, ont commencé à apprendre, passé les certifications, sont dentelières confirmées. Et il y a un renouvellement des générations qui s'opère parce que c'est un savoir-faire un peu confidentiel, discret, mais qui fascine toujours. Et je crois que c'est aussi ça la force des savoir-faire, d'excellence et des métiers d'art. C'est que ce sont des niches, mais ça fascinera toujours. Parce que c'est le talent, c'est l'expression du génie humain, et ça s'arrête pas.
On va se déplacer un tout petit peu dans ce que vous appelez votre galerie du temps. Hein. On a commencé par la fin, en fait. Et si on arrive devant cette grande vitrine qui est en cube, on a la Joconde de chez vous, c'est ce que...
Effectivement, je crois que le titre de Joconde lui va très bien. C'est un grand voile de mariée, entièrement travaillé en lin, à l'aiguille, technique de la dentelle au point d'Alençon, qui date très certainement des 2 dernières décennies du 19e ou des premières années du 20e siècle. Un grand voile de mariée comme avant qu'il passe en vente, on n'en connaissait pas. Il y a une profusion décorative qui est étonnante, des fleurs qui sont nouées par des rubans, des entrelacs de guirlandes végétales. La somptuosité du décor, elle nous a un petit peu laissé sans voix. On connaissait de très beaux voiles, mais pas des voiles aussi chargés en termes de décor et aussi complets aussi dans l'expression technique. Ce voile de mariée à lui seul, il vient un petit peu conserver l'ensemble des points et des particularités de fond qu'on connaît dans la dentelle à l'aiguille ornaise sur 3 siècles. C'est un petit peu une sorte d'encyclopédie. Vous auriez ouvert Diderot d'Alembert à la plage Point d'Alençon, peut-être que vous auriez vu ça.
Et la chose la plus étonnante de ce voile de mariée, c'est qu'on ne sait pas pour qui il a été fait, on sait par qui, mais il n'y a pas de commanditaire, c'est une énigme encore.
Oui, ça aussi, c'est tout à, ça participe de, ça renforce la fascination autour de l'objet, toutes ces inconnues. C'est vrai qu'on a peine à imaginer, dans notre lumière du XXIe siècle, ne pas savoir qui aurait pu commanditer une pièce pareille. On a la chance d'avoir retrouvé le fabricant de ce voile. C'est la maison Vignard, qui est le dernier fabricant de dentelle au point d'Alençon, à Alençon. Donc ça, c'est déjà une grande chance. Il a une paternité. Après, voilà, depuis sa production, quels ont été ses différents propriétaires, tout ça, c'est encore des choses qui méritent d'être éclaircies. Les lacunes documentaires feront que peut-être certaines questions resteront sans réponse, mais voilà, il est déjà très éloquent parce que d'un point de vue technique et ornemental, on a beaucoup de choses à dire dessus.
Et puis, c'est un travail de bénédictin. Il a fallu un temps infini pour faire ça.
On l'a regardé de très près avec les dentelières de l'Atelier national du Point d'Alençon qui nous ont orientés vers une estimation du temps de travail entre 350 000 et 500 000 heures.
Voilà. Le plus incroyable, c'est d'imaginer qu'on ne sait pas et sans doute qu'on ne saura jamais pour qui a été réalisé ce voile de mariée. Mais revenons au début de l'histoire. Revenons à la naissance de ce point d'Alençon. Alors, on l'appelait au tout départ le point de France. Mais pourquoi ?
Au XVIIe siècle, on parle de point de France pour les dentelles qui sont produites dans les manufactures royales de dentelles. Colbert et Louis XIV avaient estimé qu'il serait certainement de bon ton d'appeler ces productions point de France. Parce qu'on est dans un moment de très grande concurrence commerciale avec d'autres pays européens, donc ça permettait de bien identifier ces productions. Et le point d'Alençon va gentiment découler de ces recherches techniques qui sont menées au XVIIe siècle dans ce qu'on appelle le point de France.
Alors, comment justement il naît ce point d'Alençon ? C'est quoi l'histoire au départ ?
C'est toujours très difficile de remonter aux origines d'un savoir-faire. On sait que dans la région d'Alençon et dans l'Orne de manière générale, il y a des traditions d'ouvrages de fil, de travaux d'aiguilles qui remontent au moins au XVIe siècle. Il y a des techniciennes, du coup, très habiles dans le travail à l'aiguille, et c'est ce qui a motivé notamment l'installation d'une manufacture royale de dentelle à Alençon. Il y avait déjà une manœuvre qualifiée capable de se mettre rapidement en fait, à l'œuvre dans des ouvrages très techniques. Parce que le but, c'était d'atteindre un niveau d'excellence. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que, véritablement, on parle de dentelle. Et d'abord un point de France, et puis des recherches qui vont pousser toujours plus loin la légèreté, la transparence. Et à partir du XVIIIe siècle, on voit très régulièrement dans les documents la mention de point d'Alençon. Donc, c'est un peu à ce moment-là que l'histoire s'écrit. Alors, il y a toujours des figures mythologiques, des figures tutélaires à chaque entreprise de ce genre. Pour Alençon, la tradition attribue à une dentelière experte qui s'appelle Marthe Barbeau, épouse Laperrière, un petit peu l'origine de cette dentelle. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est quand même ancré dans le territoire depuis plus longtemps que ça.
Et à l'époque, au moment où se crée la manufacture royale, où Colbert décide... Ça représente quoi la dentelle à cette époque ?
Alors, au XVIIe siècle, on a dans les édits royaux un certain nombre de villes qui sont citées pour accueillir ces manufactures royales de dentelle. Donc on suppose qu'il y a des traditions là aussi bien établies, puisque c'était la logique d'implantation à Alençon. On entend parler d'Aurillac, de Sedan, mais effectivement, en Normandie, ce qui est très spécifique, c'est qu'il y aura eu production d'aiguilles et de dentelles au fuseau.
Ce point d'Alençon, c'est quoi exactement ?
Alors, pour le dire le plus simplement possible, le point d'Alençon, c'est un fil, une aiguille, un support provisoire de parchemin et un temps d'exécution extrêmement long et lent pour mettre en place une dizaine d'étapes complexes qui donne naissance à cette dentelle si spécifique, le point d'Alençon. À la base, ça a l'air très simple.
Oui.
Et quand on développe les étapes, la dizaine d'étapes, ce n'est pas forcément difficile à comprendre. La difficulté, c'est dans l'exécution, véritablement.
Parce que, en fait, quand on regarde, par exemple,
ce grand volant
qui est là, on a l'impression qu'on a découpé des motifs et qu'on les a cousus sur une dentelle préexistante.
Ça pourrait exister. Ça s'appelle les applications d'Angleterre, effectivement, qui combinent de la dentelle et un autre fond. En point d'Alençon, la grande différence, c'est que tout est fait à l'aiguille d'un seul tenant. Vous travaillez en petits morceaux. Sur chacun de ces morceaux, vous appliquez une dizaine d'étapes de travail. C'est un petit peu comme un millefeuille de fil, si on veut. Et ensuite, tous ces morceaux de puzzle sont assemblés. Mais comme vous pouvez le constater, on ne devine pas ces assemblages. Ils sont faits de manière tellement discrète qu'ils sont invisibles. Et c'est ça qui renforce aussi la fascination autour de cette dentelle. C'est cette impression d'une seule main et d'un seul fil, là où vous avez des dizaines de morceaux et des dizaines de dentelières qui ont travaillé sur ces morceaux. Jusqu'à très tard dans notre 20e siècle, les dentelières ne savent pas toutes produire le point d'Alençon du début à la fin de son exécution. Le savoir-faire, il est éclaté. Chaque ouvrière, du coup, je serais tentée de dire plutôt que dentelière, connaît une ou deux étapes, connaît très bien, et donc quand vous faites toujours la même chose, vous le faites très vite. C'est une sorte de mécanisation humaine. Hein. Et donc ce savoir-faire, il est éclaté. Et ça aussi, ça a participé à la protection, vous parliez de secret tout à l'heure, ça participe à la protection du secret de fabrication qui a été longtemps très bien gardé parce que objet de concurrence commerciale, on ne s'imagine pas aujourd'hui l'impact économique de production comme la dentelle à l'aiguille pour la balance commerciale du Royaume de France.
C'était exporté, c'était reconnu dans le monde entier, enfin dans l'Europe entière, on va dire, et il y avait une vraie concurrence historique entre les pays. Hein.
Avec les Flandres aussi, qui produisaient une dentelle au fuseau qui était sublime, que les grandes cours européennes s'arrachaient. Et on a trouvé dans des documents d'archives, des témoignages, on vendait des terres, on vendait des biens immobiliers pour être capable de se refaire sa parure complète en dentelle à l'aiguille et pouvoir se présenter dignement à la cour du roi parce que le point d'Alençon devait être porté à la cour. C'était l'étiquette qui avait fixé le point d'Alençon comme dentelle d'hiver.
Et c'était aussi bien masculin que féminin.
C'est même la dentelle d'abord une histoire d'homme. Ce sont les messieurs qui, dans le costume, ont introduit d'abord ces beaux ouvrages de fil ajouré. Ensuite, la mode s'est diffusée largement. Aujourd'hui, on pense plutôt à l'accessoire féminin par excellence, mais ce sont les messieurs qui nous ont donné le goût de la dentelle.
Comment on devient conservatrice de ce musée ? C'est une vocation pour vous, presque.
Peut-être. Je vous avoue que je ne me suis pas véritablement posé la question. Je n'avais peut-être pas de prédestination pour ce patrimoine en particulier. Je ne suis pas spécialiste de l'art textile à la base, mais comme disent les Canadiens, je suis tombée en amour quand j'ai regardé ces ouvrages, moins par rapport à leur dimension esthétique que justement ce savoir-faire.
Ouais.
Je trouve ça tellement fascinant, cette possibilité de partir de rien pour créer des ouvrages aussi complexes. Le temps de travail que ça nécessite, l'extrême précision, la manière aussi dont ce savoir-faire il est transmis à travers le temps, ce rapport de maître et d'apprenti, une partie de secret, et quelque chose aussi qui témoigne de l'art de vivre à la française et qui dit beaucoup de choses en fait sur la puissance des savoir-faire et des métiers d'art français. Je trouve ça très beau.
C'est beaucoup plus facile de faire venir des visiteurs au Louvre avec la Joconde, mais quand on voit votre Joconde ici, on se dit, mais on peut dire que c'est plus beau que la Joconde, surtout la Joconde. Parce que
je laisserai les gens en juger, raison, c'est plus difficile d'un point de vue marketing de faire se déplacer.
C'est-à-dire qu'il faut créer cette histoire incroyable de savoir-faire.
Par chance, il n'y a pas besoin de la créer. Tout existe, il faut le dire.
Comme on dit aujourd'hui,
il faut storyteller. Et nous, il faut qu'on ait le faire savoir.
Voilà.
Et à nous deux, on sera complémentaires. C'est vrai que ça paraît plus difficile de capter un auditoire très large autour de cette dentelle. On sait aussi, en point d'Alençon, que rien n'est facile. Alors on est déterminé, on lâche pas.
Mais et de loin, mine de rien, quand on voit cette lampe qui est là-bas, c'est absolument fascinant. On a l'impression d'avoir une dentelle lumineuse. Qui est au fond de cette salle, cette galerie du temps, moi je trouve ça fascinant.
Mais c'est vrai qu'on entre par le XVIe siècle, mais avec cette ligne de fuite que nous avons créée dans la muséographie, on est appelé vers l'époque contemporaine. C'est une lampe avec un motif de dentelle au point d'Alençon qui est découpée en fait dans des plaques d'aluminium. C'est une création qu'on a commandée à une plasticienne polonaise qui s'appelle Nespoun, qui est plutôt une street artiste. Elle fait des grandes fresques partout dans le monde où elle vient habiller l'espace public avec de la dentelle. Elle a travaillé d'abord sur la façade du musée d'Alençon. Et quand on a rénové ce parcours permanent, on voulait aussi qu'une autre de ses créations fasse partie du parcours parce qu'elle participe, comme les dentelières, à l'écriture de l'amour autour de ce savoir-faire et de ses patrimoines denteliers.
Se porte autour du cou, le cœur est fou.
Il y a une dizaine d'étapes pour la réalisation de la dentelle au point d'Alençon. Tout part d'un dessin. Et ensuite, il va falloir transférer ce dessin sur un parchemin qui va servir un petit peu de support provisoire pour construire la dentelle. Ensuite, on trace les contours des motifs. Ensuite, on vient appliquer le champ. Alors, le champ, c'est ce qui va ressembler un petit peu à des mailles de tulle et qui vont relier les motifs entre eux. Ensuite, ces motifs, il va falloir leur donner du corps. C'est ce qu'on appelle le rempli. Ça va correspondre aux parties les plus mates, les plus denses de la dentelle, les moins transparentes. Une des spécificités du point d'Alençon sont des points qu'on appelle les modes, qui sont en fait des points d'ornement, des figures avec beaucoup de transparence. Et des petits picots, des petites dents qui viennent relever ces modes. C'est là qu'on fait intervenir le crin de cheval, notamment. Et puis, vous avez un travail de brode qui va conférer un petit peu de relief à l'ouvrage, qui est quand même assez plat, hein, entendons-nous bien. Mais cette brode qui va venir souligner les contours des motifs va venir donner de la profondeur tout de suite. Et puis, vous avez ce travail aussi en bordure, avec des petites dents, des petits picots, avec crin de cheval toujours. Et ça, véritablement, c'est la marque de la dentelle au point d'Alençon. Donc, quand toutes ces étapes-là sont réalisées, on n'a toujours pas la dentelle libérée de son parchemin. Et donc, il va falloir, avec l'étape du levage, séparer la dentelle de son support provisoire. Il va falloir ensuite ébouter, c'est-à-dire enlever les petites brisures de fil qui viennent polluer la dentelle, l'arrière de la dentelle. Ensuite, s'il y a des petites restaurations à faire, parce qu'au moment du levage, on a pu endommager un fil, c'est une étape facultative, mais qui existe, qui s'appelle le régalage. On va venir régler les petits problèmes. Autre chose aussi qui fascine toujours nos visiteurs, c'est l'étape qui s'appelle le luchage. C'est une sorte de repassage à froid. On va venir écraser les parties mates de la dentelle le long des reliefs. On utilise aujourd'hui essentiellement une pince de homard pour faire ça.
D'accord.
Mais c'est un principe de repassage à froid. Ça va redonner de la brillance au fil et ça va permettre de faire ressortir tous ces petits reliefs. Si la dentelle est très grande, on aura travaillé des petits fragments. Il faudra les assembler éventuellement, autre étape facultative, mais qui demandait beaucoup de technicité et qui était l'apanage de ce qu'on appelait les maîtresses dentelières. Seules les maîtresses dentelières qui connaissaient toutes les étapes de fabrication jusqu'au 19e étaient capables de faire l'assemblage totalement invisible en fait. Et c'était elles les magiciennes.
Et ici au musée, vous avez encore des démonstrations?
Oui, absolument.
Il y a l'atelier, et puis dans le côté, il faut faire savoir et faire découvrir, le faire savoir, c'est aussi important, ça.
Absolument. Et c'est peut-être là aussi qu'on rejoint les problématiques de l'inscription du savoir-faire à l'UNESCO. C'est comment on redonne toute sa place au savoir-faire. Alors, ça passe par un discours aujourd'hui dans les collections qui est plus technique que par le passé, mais c'est aussi faire re-rentrer la dentelière, révéler la dentelière derrière l'ouvrage. Pour les pièces anciennes, on s'y efforce. Et pour la création contemporaine, la vie de l'atelier, c'est permettre aux gens de rencontrer les dentelières en démonstration au musée, par exemple, puisque leur atelier n'est pas ouvert au public en dehors des journées européennes du patrimoine.
L'avenir de tout ça, c'est confiné à un musée, à un savoir-faire traditionnel qui peut perdurer dans les siècles qui viennent, si on est objectif par rapport à... Parce que ça paraît tellement, tellement plus dans notre époque de passer des heures entières à faire ça. On est quand même dans quelque chose, on est dans l'exception absolue.
Alors c'est vrai qu'on est dans une toute petite niche, dans quelque chose d'exceptionnel, mais c'est ça aussi qui fait la force de la dentelle au Point d'Alençon, et c'est ce caractère d'exception qui lui a permis de survivre déjà au cours des 4 siècles qui se sont écoulés, où elle a été régulièrement interrogée dans ses usages, dans ce qu'elle nécessitait en termes de production, de coûts de production, etc. C'est l'exception qui lui a permis de survivre, donc on est encore, nous, tout à fait optimistes. Il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, il n'y ait pas des gens pour s'intéresser à ce savoir-faire exceptionnel. On le voit dans la capacité de renouvellement des effectifs à l'Atelier national. Après, à quoi on destine ces productions ? Aujourd'hui, la dentelle produite à l'Atelier national, elle s'est complètement affranchie du carcan de l'usage. Elle s'est révélée objet d'art et elle est reconnue comme cela. Donc sa survie, elle va peut-être l'obtenir aussi par ce biais-là. Une autre chose qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est là aussi un résultat de l'inscription du savoir-faire à l'UNESCO, l'un des engagements des porteurs de candidature, pour les rappeler Ville d'Alençon et Mobilier National, qui détient l'Atelier national du Point d'Alençon, autour de la communauté des dentelières, c'était de créer une pratique amateur qui n'a jamais existé, en fait, par le passé. Le Point d'Alençon, c'est une technique d'excellence. C'était une production commerciale très encadrée. Ce n'était pas un loisir. Vous ne retrouviez pas des gens, le dimanche, en couvige, à produire leur Point d'Alençon. Ça n'existait pas, contrairement à certaines pratiques qu'on connaît, par exemple, pour les dentelles au fuseau du centre de la France. Il n'y avait pas de pratique amateur. Aujourd'hui, elle existe. Il y a des cours du soir, si je puis dire, qui sont organisés au sein des ateliers du Centre d'Art, qui sont conduits bien sûr par des dentelières de l'Atelier national, seules détentrices à l'heure actuelle du savoir-faire, et qui transmettent à une communauté d'amateurs. Et donc, on élargit un petit peu le périmètre, et ça permet aussi l'appropriation, le réancrage territorial, si toutefois c'était encore nécessaire, de ce savoir-faire auprès de son bassin de population. Et si vous avez du soutien, vous êtes invincible. Alors, je lui souhaite d'être invincible à la dentelle au Point d'Alençon.
Merci à Johanna Mauboussin, la conservatrice du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d'Alençon, pour cette visite passionnée et passionnante à la découverte d'un savoir-faire français par trop méconnu, reconnu, lui, par le patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Un passage au musée de la dentelle, quand on est dans l'Orne, c'est absolument indispensable. Pour découvrir tous les secrets de l'Orne et retrouver toutes les informations pratiques, s'installer dans l'Orne.fr, c'est le site de référence de l'Orne.